Merci beaucoup Marc pour cette introduction et merci aussi pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant voilà, l'organisation et de ce colloque. Donc, je vais préciser qu'il s'agit d'un travail en cours, donc je vais vous livrer des hypothèses qui seront peut-être discutables. Et je vais également préciser que, à propos du titre de mon intervention, qu'il s'agira moins de penser la cruauté que de penser les liens sociaux qui lui résistent. Et enfin, avant de commencer, je vous donne très brièvement, pour que vous puissiez vous repérer, les plans de mon intervention. Donc, je procéderai très simplement en trois étapes. Après avoir dans un premier temps restitué les lignements de la réflexion de Jean-Luc Nancy sur la question de la communauté telle qu'elle nous est adressée aujourd'hui, telle qu'elle émerge et nous fait signe de toutes parts ici et maintenant, je me pencherai sur la notion de singulier pluriel pour en faire valoir l'actualité et précisément l'originalité. Et ce sera ma deuxième étape. Et je montrerai dans un troisième temps en quoi cette perspective ouvre sur un problème qui ne peut pas être complètement élidé. Les problèmes donc, de ce que j'appelle la figuration ou l'identification possible d'un nous, qu'aucune identité justement ne soutient. Ce qui m'amène à renouer les dialogues que Jean-Luc Nancy a entretenus avec Freud et Lacan. Donc, par ces titres, « Penser la communauté au prisme de la cruauté », j'ai fait allusion à l'événement qui se propage aujourd'hui à travers le monde, et particulièrement sur ses bords, en prenant les traits d'une prolifération d'affrontements identitaires et des violences intercommunautaires qui, dans l'histoire récente, proviennent les plus souvent des empiètements frontalières. Qu'il s'agisse des contestations entre États sur un même territoire, d'ethnies scindées entre des États voisins ou d'un regroupement d'ethnies en conflit au sein d'un même État, comment en effet croire, devant la guerre et les déchaînements des pulsions destructrices, que le partage d'un commun entre nous, nous tous ensemble et par ensemble distincts, soit encore possible? Ce que révèle notre actualité accablante, c'est que, comme le souligne Jean-Luc Nancy, nous avons été incapables de démanteler ou de décourager les recours aux essences communautaires et que nous les avons plutôt exacerbés. Les intensités communautaires qui avaient leur régime et leur distinction, nous les avons portées à l'incandescence par l'effet d'indistinction d'un processus mondial où la généralité infinie semble importer toute coexistence définie. N'aurions-nous alors affaire aujourd'hui à une rivalité générale au sein de laquelle, selon les mots de Jean-Luc Nancy, tous les existants sont rivaux, c'est-à-dire riverains, de même haut et pour cela concurrents, comme ceux qui prétendent ensemble aux faveurs de la même source. Ne serions-nous dès lors face à une possible tyrannie des uns, des égaux, là où hier s'élissait celle du collectif, de l'un? L'actualité politique nous force en effet à penser que l'être en commun et la rivalité, l'être avec et la déliaison autodestructrice ne s'opposent pas, mais peuvent toujours se renverser l'une dans l'autre dans une altération structurelle et réciproque. C'est toujours possible le basculement de l'un commun en rivalité, cette conversion de l'entre nous en des liaisons autodestructrices. Nancy les donnait à penser lorsqu'il observait dans la comparution que toute communauté est un principe d'exclusion. Pour autant qu'elle demeure hantée par une essence, écrit Nancy, la communauté, écrit Nancy, exclut toujours et par principe. L'exclusion peut se nommer distinction, exil, bannissement, sacrifice, mépris, marginalisation, sélection, élection, racine. Profondément, ce que la communauté veut exclure, c'est qui ne se laisse pas identifier en elle. On dit que c'est l'autre. Manière de dire qu'il n'y a des communautés qu'affermies dans sa forme par l'exclusion de l'autre, de sorte que l'on aboutit à un paradoxe, voire à une contradiction absolue, que j'énoncerai ainsi. Pas de communauté sans identification, pas d'identification sans exclusion. De sorte que la double question de l'un commun qui en découle et qui hante la réflexion de Jean-Luc Nancy de ses premiers écrits serait alors comment exclure sans figurer et comment figurer sans exclure. J'y reviendrai. Comme nous ne savons que trop, les recours effrayants aux identités communautaires ne cessent pas de déchaîner des rages et des massacres de toutes sortes. Toutefois, ce qui marque notre époque et nous force à penser de manière infiniment plus inquiétante, c'est que ce jeu d'affrontement identitaire aboutit à un état de guerre. C'est une guerre de nous contre nous, parce qu'il n'y a plus d'issue à notre extinction, nous sommes condamnés à nous diviser intérieurement. Ce n'est donc plus une rivalité qui oppose des groupes extérieurs les uns aux autres, mais une rivalité générale, qui nous met constamment au bord de la guerre ou de la compétition, de la rupture comme de la contagion fiévreuse, sur le fond d'une affirmation hostile de nos supposées identités communautaires. C'est ce constat réaliste qui sous-tend la pensée de Jean-Luc Nancy lorsque dans La communauté affrontée, il écrit ceci. L'état présent du monde n'est pas une guerre entre civilisations. C'est la guerre civile d'une improbable communauté mondiale. La guerre intestine d'une cité, d'une civilité qui sont en train de se déployer jusqu'aux limites du monde. Jadis, les communautés ont pu se penser distinctes et autonomes sans chercher leur ascension dans une humanité générique. Mais lorsque le monde finit de devenir mondial et lorsque l'homme finit de devenir humain, lorsque la communauté s'est mise à bégayer une étrange unicité, alors la communauté comprend que c'est elle qui est béante, ouverte béante sur son unité et sur son essence absente, et qu'elle affronte en elle cette brisure. C'est alors communauté contre communauté, étrangère contre étrangère, et familière contre familière. C'est déchirant elle-même et en déchirant les autres qui sont elles-mêmes sans possibilité de communication et de communion. Fin de la citation. Tels sont en conclusion les effets pervers d'une domination sans figure, selon l'expression de Jean-Luc Nancy, celle d'un ordre mondial, qui joue les uns les autres, les opposées identités. Autrement dit, il s'agit de comprendre que toute communauté, si elle s'étend au-delà d'un certain point, finit par rompre, puisque les différences internes au sein de l'ensemble l'emportent toujours sur l'identité supposée ou imposée à cet ensemble. Il s'agit donc de constater qu'à mesure qu'elle s'étend à des mesures, la communauté se déchire. À mesure où elle prétend devenir unique, elle perd son identité. Ou plutôt, son identité se fragilise au-dedans et multiplie les risques et décisions. Plus elle prétend assurer l'unité de plus en plus de langues, de territoires, de cultures, plus elle se divise. Mais aussi, plus elle s'élargit, moins elle peut trouver hors d'elle les défouloirs nécessaires pour détourner son agressivité. Nous, communauté, pourrait-on dire, ne peut faire l'économie d'autres sur qui décharger son agressivité. Sans entrer dans les détails des multiples théories de l'agressivité ou de la cruauté communautaire, je me bornerai ici à faire entendre les traits déterminants qui en retient Jean-Luc Nancy dans Cruor. Issu du grec kreas, puor en latin, cruauté en français charrie la crudité de la chair morte à l'origine prélevée dans les sacrifices. Et les sangs répandus par opposition au sang vivant qui coule encore dans les veines. L'anthropologie protohistorique nous apprend que les sacrifices par lesquels je répands les sangs de l'autre et je les récupère comme mon sang visent non seulement à assurer la survie d'une communauté, mais aussi à en garantir la cohésion interne. Ainsi, par exemple, dans les sacrifices aztèques, les mises à mort sanglantes et terrifiantes des victimes aurait garanti la cohésion de la société en rachetant ses fautes et en inspirant de la terreur au peuple étranger. Supprimer nos barrières par la promesse d'une diffusion sans fin, c'est faire fi de cette dynamique de toute communauté, de toute identité, qui s'est définie d'abord par opposition. Et c'est bien ces principes qui, à l'ère de la globalisation, expliquent que nous ayons tendance, après nous être étendus démesurément, à revenir à des formes communautaires régressives et destructrices, avec la seule différence que la mise à mort sanglante de l'autre n'assure plus, comme dans les sacrifices des primitifs, la survie et la cohésion de la communauté, mais au contraire alimente des antagonismes aussi violents qu'interminables entre des identités dont on ne peut plus dire, selon les mots de Nancy, si elles sont intranationales, infranationales ou transnationales. De sorte que, comme le souligne Jean-Luc Nancy, la cruauté tendent à devenir permanente et polymorphe, faisant couler du sang et surtout perdant de vue la possibilité même de sentir battre un sang nouveau. En définitive, il n'y aurait aujourd'hui que deux configurations également impossibles de l'être en commun. Une, dans la multiplication indéfinie des communautés fermées sur elles-mêmes, qui s'affrontent les unes contre les autres et qui, dans leur destruction mutuelle, détruisent jusqu'à la possibilité même de l'être en commun ou de l'être avec. L'autre, dans l'appel à une improbable communauté mondiale qui annule les différences culturelles et nous menace de son uniformisation. Entre les deux, ce n'est rien moins que la difficulté véritable de l'être à plusieurs qui se trouve escamotée. Et pourtant, c'est avec cela qu'il faut travailler, nous enjoindre ainsi, avec la communauté affrontée à elle-même, avec nous affrontée à nous, avec l'avec affrontant l'avec. Être singulier pluriel peut être lu comme une tentative de prendre à bras les corps cette problématique. Loin qu'il faille opposer les nous repliés sur lui-même des nationalismes et les nous tous de l'universalisme abstrait, il s'agit de penser un nous qui à la fois enregistre la conscience d'une commune appartenance et reconnaisse la dimension singulière de chaque culture et de chaque communauté dans la constitution de ces nous. En d'autres termes, et pour reprendre les mots de Jean-Luc Nancy, nous sommes désormais, nous autres, en charge de cette vérité, plus que jamais la nôtre, la vérité de cette paradoxale première personne du pluriel, qui fait l'essence du monde comme l'entrée-là d'autant de monde, qui est donc à la fois une et multiple, c'est-à-dire composée d'une pluralité d'identités qui se croisent et qui nous précipitent dans l'altérité ou dans l'altération d'un sujet qui se manque en lui-même et qui est toujours autre que lui-même. La cheville ouvrière de cette articulation entre l'universel et les particuliers, la première personne du singulier et la première personne du pluriel, est précisément la notion de singulier-pluriel. Formule dont toute la rigueur dépend de ce que les termes singulier et pluriel ne préexistent pas à la corrélation mutuelle qui les pose pour les premières fois en tant que telles. De sorte que, Je cite, la singularité de chacun est indissociable de son être avec plusieurs, est en général indissociable d'une pluralité. L'essence de ce singulier pluriel est déposée dans la langue. Ainsi, pour reprendre l'exemple sollicité par Jean-Luc Nancy, singuli, qui ne se dit en latin qu'au pluriel, désigne les chacun d'où un par un, et donc aussi chacun avec et entre les autres. On songera aussi à l'espagnol nosotros, dont la spécificité est de signifier une réunion avec division. Donc, nous, les unes avec les autres, et distinctes les unes des autres. Autant des façons de penser l'un commun comme un ensemble pluriel d'identités non souveraines mais singulières, qui sont nouées les unes aux autres tout en restant séparées les unes des autres par des écarts qui sont la condition même de leur être. La proposition de Jean-Luc Nancy a certainement la mérite d'opposer à la logique identitaire une logique de l'écart que je dirais liant, et qui précisément ne donne pas à poser une identité des principes, ni ne répond à un besoin identitaire, mais ouvre au contraire, en séparant les singularités finies, un espace de partage entre elles où circule la possibilité de faire sens en commun. L'écart, en effet, ces bornes à faire remonter à un embranchement, à marquer les lieux d'une séparation et d'un détachement, mais sans que ce dont ces détachements procèdent soit pour autant constitué. L'écart prend un départ à la dissociation, mais ne sous-tend pas pour autant une identité posée en principe. De là résulte également que par la distance ouverte, il permet une surprise réciproque de l'un par l'autre, où l'un se découvre lui-même en regard de l'autre, à partir de l'autre, se séparant de lui. On ne peut donc qu'être d'accord avec Jean-Luc Nancy lorsqu'il affirme que l'ère de la mondialisation nous oblige à reconnaître la nature constitutivement multiple et plurielle de l'être en commun. Dépasser la pluralité expressive indéfinie de nos origines et leur coexistence, pour pouvoir finalement saisir ou inventer, je cite, de l'être en commun, une constitution et une articulation décidément autres. Néanmoins, il reste encore un problème qui n'est pas automatiquement résolu par une ontologie de la pluralité. Ce qui m'amène à la question de la figuration ou de l'identification possible dans nous qu'aucune identité ne soutient. Il s'agit en effet de constater qu'aujourd'hui, nous devons autant nous désidentifier de toute espèce de nous qui serait le sujet de sa propre représentation, de toute identité figée et factice, que pouvoir, pouvoir nous penser en tant que nous, et pour cela articuler et donner forme à ce que nous sommes implicitement. Donner un voix au nous tacite qui en nous et entre nous, le long duquel circule la possibilité de sens. Cette exigence est, selon Nancy, irréductible. C'est les exigences irréductibles de dire « nous » à partir du moment où ni chef ni Dieu ne le dit pour nous. Cette exigence, poursuit-il, n'a rien de secondaire. Et c'est ce qui lui donne sa force terrible de déchaînement, de subversion, de résistance ou d'emportement. Car pas pouvoir dire « nous », c'est ce qui précipite chaque jeu, individuel ou collectif, dans la démence, où il ne peut plus dire « je ». Vouloir dire « nous », cela n'a rien de sentimental. C'est l'existence qui réclame son dû, ou sa condition, la coexistence. Fin de la citation. Située dans les contextes actuels que je viens d'évoquer, cette exigence, je voudrais les suggérer, est non seulement irréductible, mais absolument nécessaire pour échapper aux effets pervers engendrés par la mondialisation. Prendre en compte de cette difficulté, c'est ouvrir les chantiers d'une question qui hante, me semble-t-il, la pensée de Jean-Luc Nancy depuis ses premiers écrits. Comment l'être ensemble peut-il s'approprier en tant que tel lorsqu'il est livré à lui-même pour ce qu'il est, sans identification symbolique? Autour de quelle figure pourrait-il se faire l'identification d'un nous qu'aucune identité close et fixe ne soutient, ni des nations, ni des souverains? Entre une identification qui exclut et une exclusion qui identifie, n'y a-t-il pas une place pour une identification qui signifie dans les partages symboliques? Dans la panique politique, la réponse de Jean-Luc Nancy à cette question s'est construite autour d'une double exclusion. Il s'agit d'écarter deux paradigmes de l'identification devenus également caduques et dangereux. D'une part, la théorie de l'identification empruntée à Freud, suivant l'axe vertical d'une identification organisée autour d'une figure exceptionnelle ou d'un modèle, tel les chefs, les souverains, les pères ou Dieu, à qui ou par qui s'identifier. D'autre part, les paradigmes empruntés à la théorie politique d'une identification négative construite par rejet et exclusion de l'autre, de l'ennemi, du corps, de l'étranger. Il ne s'agit pas pour autant de dénier l'identification. Que l'identification soit au fondement du lien social, du lien sociopolitique, et qu'elle fasse barrage au non-rapport narcissique, à la haine des narcisses individuels, n'est jamais remis en question par Jean-Luc Nancy et dès la panique politique. Qu'elles doivent se calquer sur une identité d'origine ou sur l'exclusion d'une altérité, ce qui, en revanche, est critiqué. En définitive, il s'agit non pas de renoncer aux notions d'identification et de figuration, mais de raffiner et compliquer chacun de ces concepts. N'est pas pour les plaisirs, comme il l'a dit, de la complication, mais parce que de fait, il y a dans notre actualité, et d'une manière sans doute plus insistante et plus urgente qu'il n'y paraît, une nécessité de nous identifier plutôt que de nous en tenir simplement à des oppositions. Si donc Jean-Luc Nancy ne renonce pas à cette notion, c'est parce qu'elle désigne dans la théorie freudienne, telle qu'elle est exposée dans Psychologie des masses et Analyse du moi, les mécanismes constitutifs de la vie sociale qui a pour corrélat la constitution des moi individuels à la fois autonomes et interdépendants. Dès la panique politique, Jean-Luc Nancy répond donc les problèmes de l'identification à partir de ce qu'il considère comme l'échec, l'impasse ou du moins les suspens de la théorie de l'identification collective ou sociale chez Freud, c'est-à-dire les points d'interrogation ou d'arrêt qui marquent l'analyse freudienne de l'identification horizontale et réciproque qui s'opère entre sujets. Sans entrer ici dans les détails de la théorie freudienne de l'identification, je me contenterai de rappeler ici que l'identification collective, telle qu'elle est décrite par Freud en Psychologie des masses et Analyse du moi, suit, selon les mots de Étienne Balibar, les schèmes d'un double mimésis fonctionnant à la fois horizontalement comme identification des sujets les uns aux autres et verticalement comme identification en modèle. Toutefois, en dépit des deux axes qui forment les graphes de l'identification dessinés par Freud dans les fameux chapitres 7, elle est toujours sinon essentiellement hiérarchique ou bien archéphilique. Identification en figure exceptionnelle, les chefs ou les pères, à qui ou par qui s'identifier. Autrement dit, l'identification verticale organisée autour d'un modèle est primaire, tandis que l'autre type d'attachement, à savoir l'identification mutuelle et réciproque entre sujets, dérive de ces mêmes rapports qu'il entretient singulièrement avec les modèles ou les chefs. C'est l'illusion d'être aimé d'un amour égal par les chefs qui précipite l'einfühlung, crée la cohésion et permet à chacun de rentrer ses revendications et l'agressivité liée à l'envie ou au narcissisme. En d'autres termes, les liens sociaux seraient l'effet de l'identification verticale, du lien d'amour au chef, et pas de l'identification horizontale ou réciproque, qui dans cette mesure s'avère mystérieuse voire contradictoire, si bien que Freud lui-même sera le premier à se déclarer insatisfait de sa théorie. En définitive, comme le souligne Jean-Luc Nancy dans le texte intitulé « Les fantasmes du père », l'identification horizontale, pour autant qu'elle a lieu entre deux sujets à venir ou un retrait d'identité, c'est-à-dire non pas comme un accord des sujets formés, mais en même temps qu'ils se forment, est bien la question cruciale sur laquelle boute la théorie de l'identification exposée par Freud dans « Psychologie des masses et analyse du moi ». La théorie de l'identification chez Lacan pourrait se lire, et c'est ainsi que Jean-Luc Nancy la lit, comme la tentative de surmonter cette même problématique. Il y aurait alors à distinguer entre une identification spéculaire, un corps imaginaire et narcissique, identification à une image, et une identification symbolique, issue non d'une projection de toute puissance, mais d'une introjection du signifiant. Cette identification symbolique, à l'envers de l'autre, ne formerait pas la plénitude imaginaire, l'espace inattaquable du moi ou de l'ego, mais consacrerait du fait de cette relation à des signifiants l'impossible fermeture du moi, les manques d'une représentation idéale de soi et par là les sujets comme désirants ou comme manque à être. Les points essentiels à retenir est que les sujets ne préexistent pas à cette relation, il est au contraire à surgir dans la donnée des signifiants qu'il les recouvre dans un autre. Dans un renversement radical de la position freudienne, l'identification du signifiant, qui est identification au désir de l'autre, prévaut structurellement sur l'identification spéculaire, qui est identification à une image, et de ces faits une précipitation narcissique aliénante qui ferait du moi un appareil de défense contre l'angoisse de l'autre. En laissant de côté maintenant la technicité du langage employé par Lacan, posons-nous la question suivante. Quelle est l'affirmation centrale, extraordinairement riche, de Lacan au sujet de l'identification? En un mot, la thèse de Lacan est que l'identification symbolique n'est pas identification en image, mais à ses traits que portent les paroles ou les signifiants et qui ouvrent les sujets à l'autre, au temps et à la différence. En s'appropriant cette thèse, Jean-Luc Nancy s'en sert pour éclairer la logique de l'identification horizontale ou réciproque entre sujets que la théorie freudienne avait laissée indéterminée. Cette identification symbolique à laquelle se tient Lacan, en tant que distincte de l'identification spéculaire, écrit-il, n'est pas identification en forme ou en figure donnée, mais identification mutuelle de deux ou plusieurs qui se découvrent comme même, précisément en ceci, qu'ils peuvent former une forme non donnée, autrement dit signifiée. L'interprétation lacanienne, poursuit-il, satisfait pleinement à la requête de Freud. Elle éclaire la communication des moi dans leur stricte distinction et en tant qu'ils se signifient leur commune discrétion, au sens mathématique du mot, mais aussi au sens de la réserve, de la retenue, de chacun qui reste l'autre et ainsi un tout autre, selon l'expression de Derrida. Jean-Luc Nancy et Jacques Lacan pourraient former certes un mariage plutôt étrange, voire arrangé. Pourtant, quitte à en étonner certains, je voudrais suggérer qu'il identifie tous les deux une structure essentielle de l'identification entre sujets, à savoir les rapports au sens, comme ce qui, ou au langage, comme ce qui distingue et relie en même temps des moi en train de s'identifier et jamais identifié au sens d'un participe passé. Pour l'une et pour l'autre, me semble-t-il, l'effacement de la figure, pensée comme image, conduit à une toute autre figuration, pensée comme configuration signifiante entre deux ou plusieurs sujets en train de faire naître du sens. Plus généralement, il est intéressant de noter que pour l'une comme pour l'autre, la suspension de toutes les figures mythiques, qu'il s'agisse d'un père absent ou meurtri, laisse la place à une signifiance qui s'origine dans la séparation et dans les rapports, et qui présentifie la présence comme toujours déjà absentée par les rapports lui-même. Donc, en revenant à ma question directrice, de ce que l'identification du signifiant chez Lacan est claire, quel parti ou profit Jean-Luc Nancy a pu en tirer ? Il en résultera notamment qu'il s'agit de substituer à une figure pensée d'abord comme image, une figure pensée comme coprésence énonciatrice. Il s'agira donc d'en souligner les caractères performatifs, linguistiques et enquatifs, en faisant apparaître une détermination tout autre. Il en résultera notamment que l'on pourra ou devra considérer la figure comme configuration d'un espace d'énonciation entre nous, qui, articulant le sens tacite qui nous sommes, dans les nuages incessants des singularités les unes aux autres, finit par performer et prononcer les nous tacites que nous sommes implicitement, ici et maintenant, singulièrement, dans l'instant fragile d'une énonciation ou d'une présentation. En tant que configuration interminable d'une forme qui se performe ou articulation d'un sens tacite qui s'est fait dans les nuages des singularités les unes aux autres, la figuration possible d'un nous serait dès lors inséparable du geste même dénoué et d'enchaîné, de chacun à chacun, menant chaque fois des unicités, groupes, nations ou peuples, qui n'ont que l'unité du nœud, l'unité enchaînée à l'autre. Plus précisément, elle serait inséparable de l'acte du nouage, c'est-à-dire de l'enchaînement du sens singulier à tout autre sens singulier, du tissage qui, comme tel, n'a pas de sens, mais donne lieu à tout événement de sens. Une figure ainsi comprise comme comprésence énonciatrice ne serait pas l'équivalent d'une figuration politique. Pourtant, il y aurait là quelque chose de la figure, quelque chose de la trace ou de la parole, qui garderait l'inattendu du sens et sa venue sans la confondre avec une détermination inconsistante, en traçant au moins tendanciellement une figuralité, voire des traits, des lignements, des indices. Son événement pourrait être nommé prise de parole, surgissement d'une parole naissant dans l'une ou l'autre d'une co-énonciation, c'est-à-dire dans les passages de quelqu'un à quelqu'un d'autre et de chaque un à tous les autres, dans l'enchaînement des effets des sens, allant, dit Nancy, du phrasé au tracé jusqu'au discours, au poème et au chant, mais aussi au geste et au silence, l'engagé est plus ou moins l'engagé, mais toujours répondant à quelque chose du langage, ainsi qu'il est dans les travaux errants de sens. En ce sens, et par contraste avec la première personne du singulier « je », nous constitue un performatif inquatif et inachevable, et parce qu'inachevable, infiniment interrompu et renoué, en train de se former, mais jamais performé. Nous est toujours à l'état naissant, dans l'enchaînement des voix singulières qui s'adressent et se répondent, dans une requête d'identification pour laquelle il suggère les traits, les indices, les lignements, sans pour autant que l'identité visée ou désirée soit jamais posée ou arrêtée. C'est là que réside l'extrême difficulté de nous, qu'ils doivent en quelque sorte se dire et en se disant se faire. Il s'est fait en se disant et il s'est dit en se faisant. Pour autant, je cite Nancy, pour autant que nous y sommes déjà, toujours déjà, à chaque instant, pourrait-on dire, en reprenant les mots de Jean-Luc Nancy, il nous faut chaque fois entrer en scène à nouveau. Et pour cela, inventer un ton et un phrasé, des tons, des accents, des timbres, des rythmes qui soient les nôtres, ici et maintenant. Les nous seraient en ce sens la communauté même du sens qui s'énonce, qui s'embraille elle-même en quelque sorte, dans une parole qui en toute rigueur n'appartient en propre à personne, ou est anonyme comme la parole d'Homère pour les Grecs. C'est une parole qui agit comme origine en s'exposant. Finalement, on comprendra mieux que le nous serait la voie même, se disant, de l'identité nécessairement partagée en nous et entre nous. Cette voie se tient au point d'un tout de l'existence en commun, qui est, en un sens, un point vide, dit Nancy. Mais en ces points, elle nomme, ou plutôt elle phrase, l'unité de ces tout sans totalisation. Elle lui donne un ton, une tenue, une voix. Reste à mon sens une dernière difficulté qui peut se résumer dans la question suivante. En nous, peut-il se dire qu'elle soit les siens? Et pour répondre les mondes de Nancy, qui parle à qui et de quelle voix? À vrai dire, Jean-Luc Nancy est passé très près de cette question lorsque dans un texte sans titre, si ce n'est une partition des musiques, celle d'un chant, le peuple souverain s'avance, prononcé à l'occasion d'un colloque consacré à Jacques Derrida et intitulé « La démocratie à venir », il écrit ceci. « Cet X, ni figural, ni substantiel, c'est-à-dire donc sans identité et sans propriété, disons que c'est un sujet, en prenant ces mots en un sens strictement grammatical et en tant que sujet de l'énonciation. Le peuple qu'il faut, en toute hypothèse, est le peuple énonciateur, voire annonciateur ou déclarateur. Le peuple qui peut dire et sait dire, les soi-disant peu. Ainsi, par exemple, qui est bien plus qu'un exemple, en va-t-il du peuple européen qui doit, qui devrait ou qui devra, sait dire, sait déclarer comme les sujets d'une constitution européenne, par un acte dans lequel la constitution et la désignation du peuple sont en réciprocité absolue. » Fin de la citation. Et c'est ainsi, pardon, j'ai poursuivi la citation, c'est ainsi d'ailleurs qu'un peuple européen devient exigible, non comme la subsomption de peuple de la vieille Europe, mais précisément comme l'invention d'un autre peuple, d'un autre contact, dégagé des identifications et des adhérences déposées dans les mots ce qui se profile donc là, sous le nom de peuple, en dehors de toutes les identifications ou les significations déposées ou imposées sur lui, c'est un nous qui ne s'effondre qu'en se déclarant, sans pour autant s'éclore sur la supposée nature d'une nation, ni s'élivrer au seul fonctionnement de réseaux supposés ouverts de la globalisation. Autrement dit, c'est par sa déclaration que le peuple est peuple, ne l'étant jamais comme quelque chose de totalement présent à soi. Ouvert, comme une promesse ou comme un avenir, l'être à soi du peuple est autant une exigence, une tension et un désir que quelque chose de concret, c'est-à-dire le réel de l'être avec, mais aussi, j'hésite ainsi, le réel du nous qui précède tout jeu sans faire lui-même aucun jeu. C'est pourquoi Nancy qualifie les peuples des soi-disant, pour souligner à travers ce jeu de mots le fait d'une part que le peuple est les soi-disant ou les sujets énonciateurs de la coexistence et de l'avec, c'est lui qui l'a dit et qui s'est dit comme il le doit et comme il le faut, par une voix donc, et non pas par une représentation, et d'autre part que son identité n'est jamais atteinte, mais toujours prétendue, soi-disant. Autrement dit, et pour reprendre les mots de Jean-Luc Nancy, le peuple s'invoque et se convoque n'étant jamais là. Il est peuple par sa déclaration, non comme un produit de celle-ci, mais comme son acte même. Cette singularité d'un peuple, de son vouloir, strictement séparé de la majorité d'une population et de son opinion, ça serait, dit Nancy, la voie politique. C'est-à-dire la politique en tant que voie, appel, adresse et accent, la politique en tant que ton et langue, nomination et profération, la politique en tant que prosodie et vérité de ce peuple singulier. Les nerfs de l'argument développé dans cette conférence pourraient se résumer dans l'idée que le peuple doit pouvoir se déclarer lui-même pour s'instituer et se reconnaître comme tel, c'est-à-dire aussi pour se penser en tant que nous. Il faut donc qu'il se dise et qu'il produise des formes pour pour advenir et ses pensées en tant que nous. Son identité de nous, c'est de se déclarer lui-même, de se dire peuple, par une voix déclarative et résonante, distincte et opposée au cri des dictateurs. En ce sens, comme l'exprime très clairement Federico Ferrari, le peuple est le revenant de politique, le seul revenant qui ne se laisse pas fixer en fantasme des communautés. Avant de conclure, je souhaiterais résumer brièvement les chemins parcourus. J'abordais la pensée de Jean-Luc Nancy à partir d'un axe historique, portant l'attention sur les changements inédits opérés par l'évolution de nos sociétés, qui nous amenaient d'une organisation collective organisée de manière verticale autour d'une figure d'exception, Dieu, Père, Chef, selon les modèles de la religion monothéiste et du patriarcat, à un monde horizontal organisé en réseau où rien n'est plus commun au sens d'un partage, tandis que tout est commun au sens d'une équivalence et d'une interchangeabilité, et où ne reste désormais qu'un agrégat de groupes fermés sur eux-mêmes qui tient seulement à se différencier de ceux qui ne sont pas. Mais il y a plus. Il faut reconnaître en effet que cette mutation qui a entraîné l'ébranlement profond de toute instance de pouvoir ou autorité a tendanciellement aussi rendu incertaines toutes les circonscriptions entre groupes et par là même exacerbé les recours aux essences communautaires dont j'ai parlé au tout début. C'est bien pourquoi cette mutation implique, voire exige, de nous identifier plutôt que de nous en tenir à simplement des oppositions et des antagonismes aussi violents qu'interminables. Prendre en compte de cette exigence, c'est réouvrir les chantiers d'une question qui hante la pensée de Jean-Luc Nancy, et la question donc de savoir autour de quelle figure pourrait-il se faire cette identification dont nous, qu'aucune identité close et fixe ne soutient. La réponse de Jean-Luc Nancy à cette question s'articule, me semble-t-il, mais il s'agit d'une hypothèse, comme je disais en commençant, autour d'une parole naissante dans l'entre-nous, c'est-à-dire dans les passages de quelqu'un à quelqu'un d'autre et de chacun à tous les autres, dans l'enchaînement des effets des sens. Parole qu'aucune identité ne soutient, car elle, c'est elle au contraire qui fait venir, qui produit, qui crée, qui configure les nous dont elle parle, ou mieux, les nous qu'elle parle. Parole qui s'articule autour d'un point où c'est nous ensemble, des voix singulières, qui se font écho l'une l'autre et qui tracent ensemble la promesse d'un sens en commun, ou plutôt des sens multiples en commun. Tels seraient les fils rouges que j'ai pu tirer de ma lecture de Jean-Luc Nancy. Pour autant que nous nous identifions non pas à une identité donnée ou à une figure figée, quelle que soit sa provenance historique ou idéologique, mais à ces traits que portent les paroles, les voix, les gestes, les enchaînements de sens qui nous ouvrent autant à l'autre et à la différence, nous ouvrons la voie, certes étroite, voire improbable et difficile, mais nécessaire, d'une articulation de l'être en commun s'étenant à égale distance de deux écueils. Celui d'un idéalisme consensuel utopique et celui d'un réalisme dissensuel cynique. Celui d'une domination sans figure, celle d'une improbable communauté mondiale qui nous menace de son uniformisation, d'une part, et celui d'une possible tyrannie des égaux repliés sur eux-mêmes, d'autre part. Je vous remercie de votre attention.